marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
What should we do today?
Let's go for a run.
How far would you like to go?
Let's run for 30 minutes. Let's go.
Jogging et running. Martine Segalen et la course à pied. Je cours, donc je suis.
Bien longtemps que vous courez. 15 ans. Et vous, 30 ans. Vraiment, ouais, je débute. Hein. Ça se voit. Il y a une règle d'or à observer pour bien courir le marathon. La règle d'or du marathon, c'est courir et laisser dire.
Un moment, on s'est contenté de présenter les grandes courses à pied françaises comme des répliques des marathons américains. Quand on voit tant et tant de nos concitoyens, peut-être maintenant 20% de la population, pratiquer avec tant d'entrain l'effort physique, on ne peut plus se contenter de telles interprétations paresseuses. Le jogging est affaire de temps. Il faut donc maîtriser la chronologie des termes. On a d'abord parlé ici de course à pied, de cross. Quand est-on parvenu jusqu'au running ? Au départ, le jogging ne coûtait quasi rien. Puis est venu le temps des équipementiers et de l'électronique embarquée, si vous nous écoutez en courant. Vous avez peut-être même, en sus de vos écouteurs aux oreilles, un cardio-fréquence-mètre et d'autres appareils de mesure fixés au bras. Mais, en même temps, le jogging ne peut pas être épuisé par la seule analyse économique. Ce n'est pas comme le footing, un simple échauffement. C'est un exercice d'endurance qui produit sa propre énergie. Dans quelle intention ? La cèse n'a pas disparu de notre monde, mais elle a changé d'objet. Un cantique des églises d'autrefois disait « Je n'ai qu'une âme et c'est elle qu'il faut sauver ». Nous aurions tendance à chanter aujourd'hui « Je n'ai qu'un corps et c'est lui qu'il faut sauver ».
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Martine Segalen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coureuse à pied et ethnologue. Professeur émérite à l'université de Nanterre, longtemps directrice de l'excellente revue Ethnologie française. Et puis vous avez publié un livre il y a pas mal d'années qui s'intitulait « Les enfants d'Achille et de Nike » que vous avez complètement refondu pour une nouvelle édition. C'est aux éditions Métayer. On va faire comme si vous n'étiez qu'une ethnologue d'abord.
Comme vous voulez.
Hein ? Et une ethnologue, ça s'intéresse évidemment comme vous à l'ethnologie française. En Provence, on court beaucoup, par exemple.
Oui, absolument.
Mais on va aussi s'intéresser, quand on est ethnologue, à ce qui se passe, par exemple, chez les Indiens du Mexique et du Nouveau-Mexique. Alors, il y a des Indiens qui sont très connus depuis l'époque des surréalistes pour consommer du peyote.
Voilà. Est-ce que c'est parce qu'ils consomment cette drogue, cette substance, disons, qu'ils sont des coureurs,
oui.
Voilà, qu'ils sont des coureurs assez extraordinaires, qui sont maintenant rentrés dans la légende de la course à pied. Beaucoup de coureurs américains un peu fous aussi, qui peut-être aiment également cette substance, ont été essayés de se mesurer à eux, parce que ces coureurs qui sont des Amérindiens du Nouveau-Mexique, quand on leur fait courir un marathon, ils trouvent que c'est beaucoup trop court et ils continuent. Ils ont une technique de course, ils ont peut-être un corps certainement qui est habitué à la course à pied depuis très longtemps et on est très impressionné par les distances qu'ils peuvent faire. Et les gens se sont beaucoup intéressés d'ailleurs à leurs chaussures. Et en observant qu'il courait beaucoup avec des chaussures plates, voire pieds nus, ce qu'on peut faire depuis son enfance. D'où même à un moment, vous parliez du mouvement mercantile, les fabricants de chaussures se sont intéressés aux chaussures Tarahumara et en ont marketé un certain nombre d'exemplaires.
Vous êtes plutôt du genre comme pieds nus. Hein. Vous fréquentez un site qui s'intitule comme pieds nus.
Ça existe. Oui. Mais je cours avec des chaussures quand même, parce que je crois pas qu'on peut commencer à courir pieds nus quand on est dans un âge avancé.
Alors, à ceux qui nous écoutent en podcast et en courant, n'y a pas besoin de ce cardio-fréquence-mètre dont je vous parlais, parce que on vous fournit tout au long de cette émission un assistant vocal qui va vous permettre de mesurer vos performances.
4, 3, 2, 1, begin running now.
Sur ce plateau de la Sierra Madre mexicaine, balayé par le vent, va se dérouler une Raraipa, l'une de ces fameuses courses des Indiens Tarahumaras. Deux villages vont s'affronter. La course va opposer deux champions. Ainsi en ont décidé les organisateurs Uchocame. Lupe pour Papadichik, Ibrao pour Tewerichik. Il n'a jamais été battu. L'originalité de ces Raraipas est double. D'une part, les hommes poussent du pied tout le long de la course une boule de bois, tandis que les femmes, également concernées, projettent un anneau à l'aide d'un bâton crocheté. D'autre part, les concurrents sont d'inépuisables coureurs. L'on parle de courses ayant duré 3 jours et 3 nuits. Les coureurs auront 4 grandes boucles à parcourir. Une boucle peut être évaluée à 35 km. Nous sommes loin des 3 jours et 3 nuits. Mais il y aura tout de même près de 140 km couverts en 13 heures avec cette boule de bois à pousser continuellement. Lupe, parti très confiant, n'arrête pas de harceler Ibrao par des accélérations. Il est jeune et se sait plus rapide. Mais Ibrao est toujours impassible. Comme je cours un moment à ses côtés et m'inquiète de son état, il me dit « La course, c'est dans la nuit qu'elle se joue. »
Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a découvert la course chez les Occidentaux et le travail que j'ai fait, c'est d'aller regarder quels étaient les autres lieux du monde ou les autres peuples du monde qui couraient. Et on s'aperçoit qu'ils ne courent pas du tout pour les mêmes raisons que celles qui nous ont fait démarrer la course dans un mouvement social très important. Que ce sont au contraire des gens qui soit sont des rituels d'initiation, soit sont des rituels de puberté, soit ce sont des courses qui sont offertes pour faire tomber la pluie, pour faire venir le soleil. Donc il y a beaucoup d'ethnies dans le monde qui courent. On n'est pas les seuls, on n'est pas exceptionnels, mais qui courent pour des raisons très éloignées des nôtres, qui sont essentiellement au départ liées au bien-être de notre corps dont vous parliez au début.
Alors les raisons qui vous ont fait entrer dans ce vaste mouvement social dans les années postérieures à 1968 et à Paris, souvent du côté du bois de Boulogne.
Eh bien, moi j'exerce la profession de professeur de gym.
Administrateur de société.
Ingénieur. Vous éprouvez vraiment beaucoup de plaisir.
Ah oui, c'est un plaisir.
Est-ce que vous courez dans Paris?
Nous courons régulièrement dans le bois de Boulogne, tous les samedis, 15 km.
En principe, j'affectionne particulièrement le circuit des Champs-Élysées, c'est-à-dire que je pars de la place des Vosges, je fais place des Vosges, les quais, la Concorde, les Champs-Élysées, la remontée sur la gauche, le Phuket, en pensant aux anciens, Rému et les autres, et je redescends après du côté du Lido, Faubourg Saint-Honoré, Richelieu-Drouot et Bastille. Je fais 17 km.
Soir 3, début des années 70, votre livre « Les enfants d'Achille et de Nike » permet de rendre justice à un petit groupe d'amis comparable à celui-ci qui n'a même pas laissé d'archives radiophoniques comme celui-ci.
Non, mais mon livre essentiellement, finalement, est une présentation historique d'un mouvement auquel j'ai eu la chance de participer, oui, la chance, un mouvement social, et dont j'ai montré les transformations, voire le dévoiement. Et effectivement, des gens qui, en 1970, traversaient tout Paris en short, ça devait pas être complètement normal et aussi banal que maintenant. Et donc, on entend que là, on a affaire à un groupe d'amis qui se sont stimulés mutuellement pour commencer peut-être par 4-5 kilomètres et puis qui ont vu que c'était un sport extrêmement aimable dans la mesure où finalement les kilomètres peuvent s'additionner assez facilement si on veut bien s'y mettre et on peut continuer d'ailleurs à un âge assez avancé. Ce qui est intéressant dans votre reportage aussi, c'est que, et ça on l'a dit dans tous ses débuts, c'est qu'effectivement c'était plutôt des classes sociales moyennes moyenne ou sup, comme on dit, qui participaient. Et on a souvent dit aussi que c'était, enfin, ça exprimait les valeurs de ce groupe, endurance, travail, etc.
Je crois compétitivité.
Compétitivité. Mais comme vous l'avez dit en début, il y a maintenant, on dit entre 16 et 20 millions de coureurs en France, donc c'est pas des classes sup. C'est maintenant, au contraire, devenu extrêmement populaire dans tous les sens du terme.
Donc c'est plus un scoop sociologique que de dire que ça a commencé par les classes sup.
Non, enfin, c'est un scoop de dire que ça a commencé comme ça, si vous voulez, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Mais...
Et c'était une crise de mi-vie chez certains de vos camarades? Vous avez commencé à 30 ans.
Mais... Bon, on avait tous à peu près le même âge et on était tous des sportifs dans diverses disciplines. Et puis, il y a eu ce petit groupe qui s'est créé à partir du club auquel nous appartenions, dans le bois de Boulogne, justement. Et je me rappelle, moi, on m'a dit, écoute, viens faire 2 kilomètres dans le bois. Mais j'ai dit, mais c'est impossible, j'y arriverai jamais. Et puis 5. Et puis, comme ces gens-là, quand on s'est pris au jeu tous ensemble, compétitif entre les hommes plutôt, pas tellement entre les femmes, mais le plaisir de la sortie et le groupe a pas tellement grossi. Enfin, on a toujours tourné autour d'une centaine et on a continué comme ça pendant 30 ans et moi 45.
Quand est-on passé de ce processus de séparation? Parce que vous étiez quand même dans la distance par rapport...
Bon, on était un peu dans la marginalité, disons, qu'on apparaissait un peu fou. Oui.
Comment êtes-vous passé à un processus d'agrégation et à quelles épreuves publiques, soutenues par des gens qui vous applaudissaient dans la rue, avez-vous participé?
Ce qui s'est passé, c'est que il y avait la course du Figaro, dont on parlera peut-être, qui fonctionnait, qui attirait des gens. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de petits clubs très sympathique dans la banlieue parisienne.
Donc vous avez fait le Gaz de France.
On a fait Gaz de France, on a fait le marathon Givré par exemple, on a fait les
marathon Givré.
Marathon Givré, c'était dans le je ne sais plus quel bois et ça se courait en général en décembre et le semi de l'EDF, enfin des courses qui étaient organisées par des petits clubs et avec des bénévoles, c'est ça qui était la grande différence avec ce qui s'est passé après.
Cross du Figaro à ses tout débuts en 1965, vous parlez de 45 ans de course. Alors la longévité de Michel Drucker, je vous dis pas.
Michel Drucker nous présente maintenant le cross du jour, le cross du Figaro qui s'est disputé au bois de Boulogne.
C'était en effet la grande fête parisienne du cross country cet après-midi dans le bois de Boulogne. Les meilleurs crossman français étaient présents. Et dès la première boucle d'un parcours de 7 km, plat et rapide, les favoris sont en tête avec entre autres Bernard, Martinage, Texereau, Tijoux et Adèche. Quant à Alain Mimoun, il est toujours aussi solide et aussi populaire. Peu après la mi-parcours, Guy Texereau a démarré et lâché irrémédiablement ses adversaires. Et malgré une lutte sévère, que ceux-ci se livreront dans la dernière partie de la course, Guy Texereau ne sera pas rejoint, et c'est avec une quinzaine de mètres d'avance sur Adèche, deuxième, qu'il remporte ce 5e cross du Figaro, succédant ainsi à Michel Jazzy, au palmarès de cette époque.
Je ne veux pas faire de reproche à l'excellent Michel Drucker, mais il n'a pas vu que c'était autre chose qu'une compétition d'athlétisme.
Mais à cette époque-là, ça l'était, avec effectivement des vrais athlètes, si vous voulez. Et il y a eu cet engouement qui fait qu'en dehors des vedettes, comme on disait, il y a eu du peuple, et de plus en plus de peuple qui s'est adjoint à cette course, qui a duré très longtemps, jusqu'à temps qu'ils se rendent compte à la course du Figaro que leur distance était trop courte. Et en fait, leur succès a dégringolé à partir du moment où l'engouement pour des courses de plus en plus longues a commencé.
Mais l'athlétisme, la Fédération française par exemple, n'a pas recruté chez les coureurs à pied.
Non, justement, elle était tout à fait opposée à ces genres de manifestations. Et parmi les éclats les plus célèbres, il y avait la célèbre Marvejols-Mende qui était de 100 km, que la Fédération française d'athlétisme a essayé d'interdire. Maintenant, l'attitude a bien changé, effectivement.
L'attitude a changé aussi parce que là, en 65, il n'y a pas de femmes. Et vous dites, moi j'ai participé au cross du Figaro.
Au premier.
Alors, au premier, qui n'est pas réservé aux hommes.
Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, relativement tardivement, que ce qui m'apparaissait comme complètement normal de pouvoir courir entre femmes, c'est quelque chose qui avait été acquis de haute lutte, notamment par cette Cathy Switzer, dont
on a entendu parler. Qui est une égérie de votre livre. Oui.
Qui est la première à avoir rompu le tabou et avoir couru le marathon de Boston en 1967.
La première fois, elle s'était inscrite sous un nom d'homme.
Sous un nom d'homme, oui, c'est ça. Et alors, elle a failli se faire éjecter. Et finalement, elle a prouvé qu'une femme pouvait courir 42 km sans mettre à mal sa féminité, en tout cas.
Let's play some music.
Okay, I am ready. Particulière à la cadence. Le tempo accélère, accélère et j'entre en transe. Les gouttes de sueur se lèvent comme les enfants au soleil. Mon odeur particulière se révèle particulière. Je ne sens pas mauvais, mais plus fort que le sel de mer. C'est pas que ça me plaise, mais c'est une condition pour plaire.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
La course aujourd'hui, le jogging, le running avec Martine Segalen qui publie chez Métayer des enfants d'Achille et de Nike. Le Figaro vous aimez bien, vous êtes diplomate, vous n'allez pas en dire du mal. Il y a quelque chose que vous aimez bien dans la presse qui a disparu, qui venait de Suisse, qui était très discret, qui n'était illustré que par des photos en noir et blanc de sportifs suants et saignants. C'était un journal dont le nom était Spiridon.
Un journal mythique lancé par un Suisse absolument charmant qui s'appelle Noël Tamini et qui, à une époque où c'était vraiment le mouvement Flower Children, Hippie, etc., encourageait tout le monde à aller courir, à ouvrir la porte du stade, à quitter la cendrée et à aller dans les bois. Et c'était le retour à la nature, l'appropriation de son corps, comme une rupture avec le monde quotidien avec lequel on vivait. Malheureusement, la revue a cessé, mais Noël Tamini est toujours bon pied, bon œil. Et il a vraiment été un des pionniers de cette course libre. C'est
mais
ça.
On va peut-être y revenir, mais il y a déjà chez lui, dans son exaltation de la sagesse de la nature, voire des Indiens, un parallélisme entre l'esprit religieux et la course.
C'est vrai que certains y trouvent... On parlait de courir en groupe, mais certains, au contraire, courent seuls, sur eux-mêmes, sur leurs pensées. Et la course permet justement, quand on a atteint ce fameux niveau de bonheur avec les célèbres endomorphines, permet de se replier sur soi-même, de penser, de réfléchir. Et c'est vrai, ça a un côté ascétique d'aller jusqu'au bout de soi-même, tout en faisant tourner son cerveau.
Noël Tamini était attentif à cet aspect, mais il prônait aussi les rassemblements festifs. Il a aimé le marathon de New York, même s'il a pesté très souvent contre ses dévoiements.
I am ready.
New York, capitale de la course à pied pour un dimanche. Dans la foule, et bientôt sur la ligne de départ, un Français.
Oh, écoutez, c'est incroyable. Moi, de mon hôtel, j'ai déjà vu des gens passer, courir de l'hôtel déjà au parc, et puis voir, je disais, une centaine, 200 personnes courir le matin dans le parc. C'est incroyable. Des gens de tout âge, des petits, des grands, des gros, des longs, c'est incroyable. C'est vraiment fantastique.
Des petits, des gros et des longs. Alors, vous avez fait combien de fois? Une fois seulement le marathon?
J'ai fait deux marathons dans ma vie. J'ai fait le premier marathon de Paris et c'était quelque chose parce qu'on était dans un circuit à l'intérieur de Paris avec les pompiers de chaque mairie qui nous accompagnaient avec de la musique ou de l'eau. Et puis, j'ai fait le marathon de New York en 1992. Un souvenir inoubliable, c'est vrai.
Un quart de siècle après, le marathon de New York a lieu ce week-end. Vous pouvez dire que ce qui vous a le plus étonné, le mieux surpris, c'est le comportement des organisateurs à la fin et après.
Mais c'est extraordinairement organisé, puisqu'il faut amener, et je crois qu'il limite le nombre à 25 000 personnes, et il y a beaucoup de Français qui viennent particulièrement, il faut acheminer 25 000 personnes à un point de départ, à un moment, récupérer leurs vêtements, et maintenant je dois dire que tous les marathons dignes de ce nom font ça, si vous voulez. Mais c'était vraiment une organisation professionnelle, c'est une organisation qui nécessite évidemment beaucoup d'argent, plus question de bénévolat comme nos petits crosses dans les banlieues parisiennes, mais une organisation très solide.
Parce qu'à la fin, vous tenez, vous, au souvenir? Ah, vous aimez avoir la photo, le t-shirt. Ah, bah,
bien sûr, oui, et la médaille, et la photo. Et ce sont des souvenirs auxquels je tiens, oui, parce que courir, c'est aussi se souvenir de tous ces bons moments qu'on a passés ensemble.
Donc votre appartement est plein de photos.
Non, je vais vous dire, j'ai un endroit secret. Qui sont mes toilettes, qui sont décorées de toutes mes médailles, très jolis tableaux, dont je suis extrêmement fière, il faut bien le dire. Et puis, j'ai un petit dessin que m'a donné un ami que j'aime beaucoup, une petite gravure du XVIIIe siècle, et qui dit « Ennemi des plaisirs faciles, il est des matins à courir destinés où les coureurs les plus agiles d'un plat d'étain sont couronnés. »
On va y revenir à ce thème. L'ennemi des plaisirs faciles. Parlons un peu chiffon, enfin plutôt maillot.
Oui.
Vêtements. Chaussures, de nouveau.
Chaussures, oui. On courait avec des chaussures très plates. Et Nike est venu dire, et maintenant les médecins disent que c'était une erreur, qu'il fallait au contraire avoir un talon surélevé, beaucoup de souplesse et d'élasticité dans la chaussure. Tout le contraire des pieds plats des Tara Umara, comme vous le voyez. Et donc, à partir de là, ça a ouvert une boîte de Pandore avec les dizaines de marques. Je ne vais pas les citer toutes. Et puis surtout, il y a eu quand même un costume, même si il n'y a pas un costume, comme on pourrait dire qu'il y a un costume pour jouer, pour faire du ski ou pour monter à cheval, si vous voulez. Mais les vêtements qui sont venus, qu'on a appelés les textiles techniques.
Non, mais moi, je veux revenir au thème, l'ennemi des plaisirs faciles, parce que le marathon de New York, vous l'avez fait une fois, mais je suis sûr que vous n'avez même pas fait l'ultra-trail du Mont Blanc, parce que maintenant, il faut pousser encore plus loin vers les extrêmes.
Le Mont Blanc, toit de l'Europe occidentale et ses 4810 mètres d'altitude, ses neiges éternelles, ses glaciers et ses vallées profondes. Un sommet arrondi qui domine Chamonix et fascine des milliers d'alpinistes et amoureux de la montagne. Fin août, il attise aussi la convoitise de milliers de trailers du monde entier qui se donnent rendez-vous pour disputer l'une des 5 épreuves de l'Ultra Trail du Mont Blanc. 87 nations représentées, 3 pays traversés, France, Italie et Suisse, et pas moins de 7500 participants qui vont vivre une véritable aventure humaine sur ce qui est devenu au fil des années un mythe de la discipline et support de la 10e étape de l'Ultra Trail World Tour.
Et il y a pire encore, l'Ultra Trail de Belledonne, dans le Haut-Bréda, pire encore, le Terminorum de la Chartreuse. Trois fois plus difficile, paraît-il, que l'Ultra Trail du Mont Blanc.
Il y a le Bad Water Marathon qui se passe dans le désert des États-Unis, là, ou dans le désert de la mort, là, où certains coureurs se font attendre par leur équipe, par exemple, avec des cercueils remplis de glace pour qu'ils puissent rafraîchir leur corps. On ne sait pas où ça s'arrêtera, effectivement. Il y a les gens qui courent au Maroc. Il y a une course qui est très connue, les marathons des sables. Tous les jours, un marathon en indépendance alimentaire, s'il vous plaît. On leur fournit à boire, mais il faut avoir emporté toute sa nourriture pour 8 jours. Et je comprends qu'il y en a qui veulent aller toujours plus loin. C'est pas pour moi, rassurez-vous.
Mais est-ce que vous ne faites pas un rapprochement, ethnologue, historienne, avec, je ne sais pas, moi, les ermites du désert qui ne couraient pas et étaient là, exposés au soleil sur leurs colonnes, les stylites. On revient toujours à cette question de la douleur consentie.
C'est vrai, et c'est même dans un marathon, si vous n'êtes pas assez entraîné, la douleur, elle est là, on la rencontre avec le fameux mur des 36 kilomètres, mais il y a quelque chose là-dedans d'une forme de purification à travers la douleur qu'on peut effectivement comparer à l'érémitisme, comme vous dites, pourquoi pas, et en même temps, il y a quand même toutes ces personnes qui se lancent dans ces ultra-trails, etc., n'y vont pas impréparées, organisent une préparation très longue. Et il y a après, et ça, Tamini et Spiridon ne trouvaient pas ça négatif, il y a après tout le festif qui suit et qui est important. Vous parliez de New York avec les vêtements, etc. Mais à New York, après, il y a la gigantesque pasta party de tous ceux qui viennent célébrer le fait d'avoir eu cette douleur ensemble, l'avoir partagée et de l'avoir surmontée. Et dans notre monde actuel, on n'a plus aucune douleur. On a besoin de ces passages-là, pour certains d'entre nous, de plus en plus nombreux, semble-t-il, pour ma foi, avoir fait un exploit dans sa vie, autre que la vie quotidienne, et de se sortir de son train-train. Vous avez employé plusieurs mots intéressants pour désigner la course à pied. C'est vrai que nous qui nous considérions comme des purs, on appelait ça de la course à pied. Et faire un petit cross et aller faire une petite sortie sympathique. Ensuite, le jogging nous est arrivé dessus et on trouvait, nous, les puristes et les premiers, ça tout à fait vulgaire. Et puis maintenant, le running, je pense que ça désigne une espèce d'industrie. Et ce qu'il faut voir, c'est que à côté de ça, il y a des nouvelles formes de déplacement qui sont pas de la course, qui sont plus ou moins compétitifs. C'est la marche qui arrive maintenant. Et si je retourne dans le bois de Boulogne, je vais croiser des tas de groupes de gens qui marchent avec des bâtons. Ça, c'est une nouveauté.
Oui, mais je vais pas vous dire, je vais pas vous vexer, Martine Segalen, mais Murakami, autoportrait encore de fond, l'écrivain japonais. Si je possède une tombe et que je suis libre de choisir ce qui sera gravé dessus, voici ce que j'aimerais y lire, Haruki Murakami, écrivain et coureur. Au moins, jusqu'au bout, il n'aura pas marché. Marché.
Oui, ça a l'air vraiment d'être beaucoup moins bien. Mais maintenant, il y a de la marche rapide aussi, qui est extrêmement rapide. Et des marcheurs rapides peuvent doubler des coureurs lents. Et moi, pour pasticher cet auteur, je dirais que je voudrais plutôt faire comme Brassens, qui passe sa mort en vacances sur un pédalo. C'est vrai que j'aimerais bien la passer aussi en courant. Mais enfin, seul Dieu sait ce qui nous est réservé.
Les enfants de Nike et d'Achille aux éditions Métellier.
Et ce jour-là, sans raison particulière, je décidai d'aller courir un peu. Alors j'ai couru jusqu'au bout de la route, et une fois arrivé là, je me suis dit que je pourrais courir jusqu'au bout de la ville, et une fois arrivé là, je me suis dit que je pourrais courir à travers le comté de Greenbow. Et puisque j'étais déjà allé si loin, autant courir à travers le grand état d'Alabama. C'est ce que j'ai fait. J'ai couru droit à travers l'Alabama. Puis, sans raison particulière, j'ai continué à courir. J'ai couru droit vers l'océan. Et une fois arrivé là-bas, puisque j'étais déjà allé si loin, autant faire demi-tour et continuer ma course. Et je suis allé jusqu'à un autre océan. Et puisque j'étais déjà allé si loin, autant faire demi-tour et continuer encore. Oui.
Cours, Forrest, cours. Cours, Forrest, cours.
Merci à vous, Martine Segalen. Cette émission était réalisée par Audrey Ripouille. Pour la préparation, c'était Franck Olivard. À la technique, Pierre-Yves de Rolin.